Chapitre 9. Le nouveau sacrifice et le nouveau sanctuaire. L'apôtre a placé devant nous la nouvelle sacrificature de Christ, au chapitre 7, impliquant les bénédictions de la nouvelle alliance, chapitre 8. Maintenant, dans le chapitre 9, il présente le nouveau sacrifice de Christ dans toute sa valeur, en même temps que le nouveau sanctuaire auquel il donne accès. Versets 1 à 10. Citation de l'Écriture. La première, donc, avait aussi des ordonnances pour le culte et le sanctuaire, un sanctuaire terrestre. Car un tabernacle fut construit, le premier, qui est appelé saint, dans lequel était le chandelier et la table et la proposition des pains, et, après le second voile, un tabernacle qui est appelé saint des saints, ayant l'encensoir d'or et l'arche de l'Alliance entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or qui renfermait la manne et la verge d'Aaron qui avait bourgeonné et les tables de l'Alliance. Et, au-dessus de l'arche, des chérubins de gloire ombrageant le propitiatoire, sur quoi nous n'avons pas à parler dans ce moment en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent constamment dans le premier tabernacle, accomplissant le service. Mais dans le second, le seul souverain sacrificateur, une fois l'an, non sans du sang, qu'il offre pour lui-même et pour les fautes du peuple. L'Esprit Saint indiquant ceci, le chemin des lieux saints n'a pas encore été manifesté, tandis que le premier tabernacle a encore sa place, lequel est une figure pour le temps présent, dans lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait, quant à la conscience, celui qui rend culte. Culte qui consiste seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions, ordonnance charnelle imposée jusqu'au temps du redressement. Fin de citation. Dans les versets 1 à 7, nous avons le sanctuaire terrestre et ses sacrifices matériels. L'apôtre fait d'abord mention du tabernacle d'autrefois, non pas pour parler en détail de ses ustensiles, aussi instructifs soient-ils du point de vue symbolique, mais pour montrer, par contraste, la supériorité du sanctuaire céleste. Nous apprenons que, bien qu'il y ait des ordonnances pour le culte liées au tabernacle, c'était néanmoins essentiellement un sanctuaire terrestre. Par sa beauté, son rituel compliqué et ses cérémonies propres à frapper les sens, il faisait spécialement appel à l'homme naturel et était ainsi entièrement adapté à ce monde. En outre, l'écrivain met fortement l'accent sur les deux parties du tabernacle séparées par le voile, la première, le lieu saint, et la seconde, le saint des saints. Après avoir fait allusion à la disposition du tabernacle et à son contenu, l'apôtre en vient au sacrificateur, au sacrifice lié au tabernacle et au peuple. En rapport avec ce tabernacle, c'était les sacrificateurs, non pas le peuple, qui accomplissaient le service divin. De plus, dans la seconde partie du tabernacle, seul le souverain sacrificateur avait accès, une fois l'an seulement, et non sans du sang qu'il offrait pour lui-même et pour les fautes du peuple. Nous avons donc, dans ces premiers versets, une description de ce dont l'apôtre parle, dans le dernier chapitre, comme étant le camp. Chapitre 13, verset 13. Le camp était composé d'une masse de personnes groupées autour d'une tente dont la somptuosité plaisait à la nature, comportant une partie cachée derrière un voile, le Saint des Saints, et dans laquelle officiait une compagnie de sacrificateurs distincts du peuple qui accomplissait les services divins en faveur de celui-ci. Dans les versets 8 à 10, nous avons la signification du tabernacle et de ses sacrifices. Qu'avons-nous donc à apprendre du tabernacle et de ses sacrifices? Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes pour les interpréter, car il nous est expressément dit que l'Esprit Saint en a donné la vraie signification. D'abord, nous devons apprendre que les services du tabernacle montraient clairement que, sous la loi, l'accès à la présence de Dieu n'avait pas encore été manifesté. Ensuite, si l'accès dans le lieu très saint n'était pas encore ouvert, c'était une preuve évidente de l'insuffisance des sacrifices. Il ne pouvait pas rendre parfait, quant à la conscience, celui qui rendait culte. Enfin, Ces choses, tant qu'elles existaient, étaient une figure de celles qui étaient à venir. Les figures, toutefois, ne pouvaient jamais satisfaire Dieu, ni répondre aux besoins de l'homme. Sous un tel système, Dieu était caché dans le sanctuaire, et l'homme en était exclu. Le système juif ne pouvait en aucun cas ouvrir le ciel. La chrétienté, hélas, ignorant l'enseignement de l'Esprit-Saint, au lieu de voir dans le tabernacle une figure, s'en est servie comme d'un modèle pour ses services religieux. En agissant ainsi, elle a perdu les biens à venir dont les figures parlent. Ainsi, en général, on s'est remis à construire de somptueux édifices, dont on a également isolé une partie comme étant plus sainte que le reste, et on a de nouveau institué une classe sacerdotale distincte des laïcs qui accomplit les services religieux en faveur du peuple. Un système a été ainsi adopté selon le modèle du camp juif, qui maintient le peuple loin de Dieu et ne peut jamais rendre parfait quant à la conscience. Il est bon de se rappeler de ceci. Être parfait quant à la conscience, ou avoir la conscience purifiée, selon les expressions des chapitres 9 et 10, et avoir une bonne conscience, comme nous le trouvons ailleurs, sont deux choses bien différentes. J'ai la conscience purifiée quand j'ai été exercé au sujet de mes péchés et que j'ai trouvé une réponse à ces exercices dans le sang précieux de Christ qui me met à l'abri du jugement. J'ai une bonne conscience quand ma vie et ma marche pratique sont exemptes de péché conscient. Versets 11 à 23, le nouveau sacrifice. Citation de l'Écriture. Mais Christ étant venu, souverain sacrificateur des biens à venir, par le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de boucs et de taureaux, et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que, la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne, car un testament est valide lorsque la mort est intervenue, puisqu'il n'a pas de force tant que le testateur vit. De là vient qu'aussi la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Car chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « C'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné ». Et, de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle aussi et sur tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que cela. Fin de citation. La venue de Christ a tout changé. D'emblée, nous avons un nouveau souverain sacrificateur, un tabernacle plus grand et plus parfait, et un nouveau sacrifice. Aaron était souverain sacrificateur en relation avec les choses du monde présent. Christ est notre souverain sacrificateur des biens à venir. Le sacrifice de Christ assure certes des bénédictions présentes aux croyants, mais les biens en rapport avec lesquels Christ est souverain sacrificateur sont encore à venir. Ainsi, l'Esprit de Dieu a de nouveau en vue la fin de notre pèlerinage terrestre. Au chapitre 2, verset 10, nous avons appris que Christ amène plusieurs fils à la gloire. Au chapitre 2, verset 5, il est parlé du monde habité à venir. Au chapitre 4, verset 9, il est parlé du repos qui reste, et au chapitre 6, verset 5, nous trouvons le siècle à venir. Christ, notre souverain sacrificateur, nous porte tout au long du désert en vue de nous introduire à la fin du voyage dans les biens du monde à venir. Si donc la sacrificature aaronique est mise de côté par la sacrificature de Christ, le tabernacle terrestre est également mis de côté par le tabernacle plus grand et plus parfait. Le tabernacle terrestre était fait de main et était de cette création. Le tabernacle parfait est le ciel même. Verset 24. Les sacrifices lévitiques sont mis de côté par le sacrifice de Christ fait une fois pour toutes. Avec son propre sang, Christ est entré dans le ciel même, préfiguré par le lieu très saint. En outre, en contraste avec le sacrificateur aaronique qui entrait une fois l'an, Christ est entré dans le ciel une fois pour toutes. Il entre pour accomplir son service sacerdotal en faveur de ceux pour lesquels il a déjà obtenu une rédemption éternelle. Le sang de Christ, par lequel la rédemption éternelle a été obtenue, met de côté le sang des taureaux et des boucs. Le sang de ces animaux avait certes un effet sanctifiant, dans la mesure où la purification du corps est concernée, voir Nombre 19, versets 7 et 8. Mais le sang de Christ purifie la conscience. Le sang d'un animal offert sous la sacrificature lévitique est entièrement mis de côté par le sang de Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Par le Saint-Esprit, Christ est devenu homme. Par le Saint-Esprit, il a vécu sa vie de perfection. Ainsi, par l'Esprit éternel, comme homme parfait, il s'est offert lui-même à Dieu sans tache. En Luc 1, verset 35, l'ange dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » En Acte 10, verset 38, l'apôtre dit au sujet de Jésus, « Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de puissance. » Dans le chapitre 2, au verset 9, nous lisons que, par la grâce de Dieu, Jésus a goûté la mort pour tout. Ici, nous apprenons qu'il s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Nous pouvons ainsi annoncer aux pécheurs que Christ s'est offert lui-même à Dieu, mais pour eux. Pour celui qui croit, l'effet de ce sacrifice fait une fois pour toutes est de purifier la conscience des œuvres mortes. Christ s'étant offert lui-même à Dieu sans tache, Dieu ayant accepté ce sacrifice unique et étant pleinement satisfait de Christ et de son sang répandu, la conscience du croyant est libérée de toute pensée d'œuvre à accomplir pour obtenir la bénédiction. De telles œuvres, aussi bonnes soient-elles en elles-mêmes, ne seraient que des œuvres mortes. Ainsi, mis à l'aise dans sa conscience, le croyant devient un adorateur. Le sacrifice de Christ répondant à la sainteté de Dieu et aux besoins du pécheur, Christ devient médiateur de la nouvelle alliance, celui par qui toutes les bénédictions sont assurées pour ceux qui sont appelés, afin qu'ils reçoivent l'héritage éternel promis. L'apôtre a montré que la mort étant intervenue, le croyant reçoit la promesse de l'héritage. Pour illustrer la nécessité de la mort, il en réfère, dans la parenthèse des versets 16 et 17, au fait que, parmi les hommes, un héritage est assuré par un testament qui ne devient valide qu'à la mort du testateur. L'écrivain en vient à montrer que ce grand fait était présenté en image dans la première alliance et dans le tabernacle terrestre. La première alliance fut inaugurée avec du sang, et il fut fait aspersion de sang sur le tabernacle et tous ses ustensiles, témoignage qu'il ne peut y avoir aucune bénédiction pour l'homme, aucun moyen de s'approcher de Dieu, sinon par le sang. Ainsi, nous arrivons à la grande conclusion que, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Ici, ce n'est pas simplement l'aspersion du sang, mais l'effusion du sang. Le fondement de justice sur lequel Dieu peut annoncer le pardon à tous et proclamez pardonnés tous ceux qui croient. Le tabernacle et ses ustensiles n'étaient que les images des choses qui sont dans les cieux. On pouvait entrer dans le tabernacle terrestre après la purification de la chair obtenue par le sang de taureaux et de boucs. Mais la purification des choses célestes réclamait de meilleurs sacrifices. Versets 24 à 28. Le nouveau sanctuaire. Citation de l'Écriture. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints, faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu, ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un sang autre que le sien, puisque dans ce cas, il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. Fin de citation. L'écrivain a parlé des meilleurs sacrifices, introduisant le sujet par ces mots « Mais Christ étant venu » au verset 11. Maintenant, il dirige nos pensées vers le nouveau sanctuaire par les mots « Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même. » Là, dans la présence même de Dieu, le Seigneur Jésus paraît maintenant pour les siens comme leur grand souverain sacrificateur devant la face de Dieu. Christ paraissant dans le ciel, devant la face de Dieu, pour nous, est le témoignage éternel que le ciel est assuré et ouvert pour le croyant. En outre, le sacrifice fait une fois pour toutes est éternellement efficace pour ôter en justice tout obstacle à la présence du croyant dans le ciel. La répétition annuelle des sacrifices lévitiques était une preuve de leur incapacité d'ôter le péché. En contraste avec ces sacrifices, Christ a été manifesté une fois en la consommation des siècles pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même et, comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi a été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs. Ainsi, par un seul sacrifice, le sacrifice de Christ lui-même, le péché a été aboli, les péchés ont été portés, et le croyant n'a plus de crainte de la mort ni du jugement. L'heureuse conséquence qui en résulte pour le croyant, c'est que lorsque Christ apparaîtra une seconde fois, il n'aura plus rien à faire avec le péché. La question du péché ayant été traitée à sa première apparition, sa seconde apparition n'aura d'autre but que d'enlever les siens d'un monde caractérisé par le péché et la puissance de l'ennemi pour les introduire dans le repos qui reste. Le passage présente ainsi les trois phases de l'œuvre du Seigneur Jésus. Il est apparu, une première fois pour abolir le péché à la croix, porter les péchés et ôter le jugement, verset 26. Il paraît maintenant dans le ciel même comme le grand souverain sacrificateur en faveur des siens, et il apparaîtra en gloire pour sauver définitivement les siens de ce monde aride avec toutes ses tentations et ses infirmités.